France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur la fatigue, sur le fait d'être crevé, comme on dit quand on nous demande comment ça va. Ça va, bah je suis crevé. Alors qu'est-ce que la fatigue? Est-ce une maladie en tant que telle ou un symptôme? Et si oui, un symptôme de quoi? Un passionnant dictionnaire de la fatigue est publié aux éditions de Rose. Près de 1000 pages consacrées à la mélancolie, à la léthargie, à l'apathie, au bovarisme, à l'ennui au travail et à une quinzaine de formes différentes de fatigue. J'ignorais qu'il y en avait autant. Que dire d'une fatigue occasionnelle, d'une fatigue chronique? Est-ce dangereux? Comment penser cet état et éventuellement le soigner? Vos questions, vos témoignages aussi dans le téléphone sonne.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et j'ai oublié de vous parler du passage à l'heure d'hiver. 01 45 24 7000, franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson. Bonsoir Mallory. Vous nous appelez de Caen et nous vous écoutons. Vous êtes fatiguée.
Des fatigues ponctuelles. Des fatigues ponctuelles. Je suis assez active. On décrit parfois comme quelqu'un d'hyperactif. J'ai des bonnes nuits de sommeil. Je tourne à 7-8 heures. C'est, une nuit à 7-8 heures, c'est une bonne récupération. Et là, je passe chaud. Je me rends compte que quand j'ai une dette comme ça, un peu de fatigue, en fait, quand je commence à me sentir fatiguée, je me dis, je me fais une bonne nuit. Et puis là, on n'a pas l'impression d'être préparé comme ça se faisait avant, c'est-à-dire 10 ans en arrière. Donc, est-ce qu'il y a d'autres moyens que le sommeil pour récupérer finalement de la fatigue?
Restez en ligne, Mallory. Je vous présente les invités du téléphone sonne. Philippe Zaviéja, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé Mines Paris Tech, centre de recherche sur les risques et les crises, Sophia Antipolis. Vous avez dirigé donc ce dictionnaire de la fatigue aux éditions de Rose. Patrick Cherin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de médecine interne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Qui répond à Mallory? Peut-être vous, monsieur le professeur, pour commencer.
Oui, bah effectivement.
Fatigue occasionnelle,
ponctuelle. Fatigue occasionnelle, ça peut être effectivement de façon ponctuelle liée à une surcharge de travail, à des petites infections récurrentes.
À l'âge.
Enfin, j'ai pas osé le dire, mais.
C'est Mallory qui l'a dit elle-même. Hein, elle récupère moins bien qu'il y a 10 ans.
Voilà. Après, effectivement, ça peut être le symptôme d'une fatigue plus importante qui apparaît au fur et à mesure, liée à la surcharge de travail, liée à du stress. On y reviendra certainement au fur et à mesure de l'émission, surtout chez des gens hyperactifs. Et malgré le sommeil, eh ben, on récupère de moins en moins bien parce que le stress perturbe aussi la qualité du sommeil et peut-être l'origine de ces états de fatigue ponctuels et qui peuvent malheureusement de temps en temps devenir de plus en plus importants.
Qu'avez-vous envie de dire, Philippe Zaviéja, vous qui n'êtes pas médecin? À notre auditrice Mallory.
Moi, ce que j'entends du témoignage...
C'est des mots, déjà. La fatigue, c'est des mots.
Bien sûr.
M-O-T-S.
Et
c'est un discours.
C'est le principal matériau qui m'intéresse là-dedans. Ce que j'entends du discours de l'explication de Mallory, c'est l'étiquetage entre une bonne et une mauvaise fatigue. Et on sent qui est constant en fait, on sent que ce qui commence à la perturber, donc ce qui commence à faire glisser vers la mauvaise fatigue, c'est l'inefficacité de la récupération. Je trouve que ça, c'est constant dans les gens que je rencontre. À partir du moment où le sommeil ne remplit plus son office, on s'inquiète. Mmh. Et la fatigue devient mauvaise.
Mmh. Et il y a un article sur les troubles du sommeil, d'ailleurs, dans le dictionnaire.
Oui.
Parce que, voilà. Et il y a aussi un article, alors je me souviens plus quelle est l'entrée, sur le moment où le fatigué met des mots sur sa fatigue et décide d'aller voir le médecin. C'est un moment de basculement, non? Philippe Zaviéja?
Oui, mais je ne sais pas non plus quel article vous faites référence.
Nous sommes tous les deux fatigués, alors. Petit trou de mémoire.
Non. Sans doute.
Sans doute. Patrick Cherin, oui.
Oui, c'est effectivement, du point de vue médical, la notion de repos est essentielle entre ce qu'on appelle la lassitude, qui est l'autre terme, où effectivement on parle de fatigue physiologique, où le repos permet de récupérer la fatigue intégralement, et dans ce cas-là, c'est tout à fait normal, de ce qu'on appelle médicalement, nous, l'asthénie, où le repos ne permet pas de récupérer. On reste fatigué malgré le repos. Et c'est là où ça devient pathologique, où ça témoigne d'une souffrance.
Mmh. Asthénie, article aussi, hein, si mes souvenirs sont bons, Philippe Zaviéja.
Oui, avec aussi deux gros corpus qui sont la psychasthénie et la neurasthénie, alors qu'ils sont évidemment des mots composés à partir d'asthénie, mais neurasthénie qui a fait la fortune d'un médecin américain qui s'appelle Bird, à partir de la fin du 19e, qu'on n'utilise plus beaucoup, à part dans le jargon commun maintenant, et de façon un peu désobligeante, j'ai envie de dire, en neurasthénique, mais ça a été un diagnostic médical qui a été extrêmement populaire, j'ai envie de dire. On la retrouve constamment chez Proust, la neurasthénie, dont le père, le professeur Adrien Proust, était d'ailleurs l'un des papes français de la neurasthénie. On la retrouve un peu chez Thomas Mann, un prix Nobel allemand, et on la retrouve chez pléthore d'auteurs de cette période-là. Donc, en gros, jusqu'à la Première Guerre mondiale, on continue à diagnostiquer des neurasthénies, aujourd'hui de façon importante, dans la psychiatrie orientale, en Chine et au Japon par exemple.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la fatigue ?
Eh bien justement que c'était un terme que j'entends constamment, aussi bien dans les discours quotidiens que dans les discours médicaux, alors avec une utilisation et un usage différents. Moi, j'arrive de l'univers du burn-out, hein. J'arrive de la fatigue au travail, il n'y a pas de secret, avec des termes extrêmement nombreux, alors avec des différences de degrés, etc. Et en ce qui concerne le burn-out, la dépression, la neurasthénie, un fil conducteur historique qui me semblait être un fond mélancolique, alors avec des nuances au fil des siècles et des époques, mais quelque chose que je percevais comme un fil conducteur. La mélancolie, c'est, enfin, on la connaît depuis Hippocrate, on l'a décrite à peu près dans les termes actuels depuis Hippocrate. Elle a changé de nom, elle a changé de fréquence, j'ai envie de dire, elle a changé d'intérêt dans les discours dominants ou pas, mais elle est toujours là comme un fond. Moi, c'est ça, cette richesse de discours, ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas, de nos sociétés, ou des sociétés d'une façon générale, de nos valeurs, des choses qui sont importantes dans une société à un moment donné, et des acteurs qui sont autour, c'est ça qui m'intéresse autour de la
fatigue. Alors, qu'est-ce qu'elle dit d'important, Philippe Zavieja, la fatigue sur la société aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, on parle énormément de fatigue au travail. On en a encore parlé tout de suite avec Mallory. On parle énormément de fatigue au travail, avec des termes très, très, très variés. Le dernier à la mode date d'une semaine, on nous parle du brownout.
Expliquez.
Alors le brownout, alors j'ai pas encore lu en détail le livre de mes deux collègues, mais qui sont deux collègues très sérieux, mais qui en gros mettraient en avant le manque d'intérêt du travail, c'est-à-dire un travail absurde dont on ne perçoit pas le sens. Alors le mot brownout, finalement, n'apporte pas grand-chose, me semble-t-il, par rapport à tout ce qu'on sait des fatigues au travail. C'est juste un effet de mode. Là, comme ça, en première intention. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a désormais des gens qui perçoivent l'absurdité des tâches qu'on leur demande d'accomplir. Ça dit des choses intéressantes sur ce que sont devenues les organisations de travail et ce qu'est devenu l'emploi.
Vous voulez dire un mot sur le travail, peut-être, Patrick Cherin ?
Oui, je crois, même de façon plus générale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du travail, de la fatigue au travail, mais la notion de fatigue chronique, ça existe depuis 3000 ans. Hippocrate l'a décrit, c'est le syndrome des Scythes, ce fabuleux guerrier à cheval qui était très fatigué après une bataille perdue, et qui, il a décrit l'atonie chronique, c'est la fatigue chronique des guerriers Scythes. Galien l'a décrit, Bird, en 1869, a décrit la neurasthénie. C'est vrai que c'était exceptionnel, il l'a décrit avec ses fatigues chroniques, ses maux de tête, ses douleurs diffuses, ses troubles du sommeil, ses troubles de l'attention. C'est exactement ce qu'on retrouve dans le syndrome de fatigue chronique aujourd'hui, dans le syndrome de Tao, le syndrome de Youpi des années 80, ce qu'on observe maintenant dans le burn-out, c'est-à-dire que globalement, au fur et à mesure des époques, le nom change, l'étiquette change, mais le mal, c'est le même.
Bonjour Denis.
Oui, bonjour, je vous remercie d'avoir pris mon appel.
Je vous en prie.
Donc moi, c'est un témoignage très simple. Je suis cadre et manager dans une société de taille intermédiaire, et donc avec des horaires très, avec une très forte amplitude et des responsabilités qui font qu'il y a une fatigue au quotidien, un surmenage. J'y crois, en tout cas je pensais pas vraiment qu'il y avait de solution à portée de main, et pour mon cas, donc j'avais des clignements d'œil dès le début de l'après-midi qui s'accentuaient toute la journée, et donc une difficulté à me concentrer, à travailler, et pour mon cas en tout cas, une cure de magnésium, ça a quand même pratiquement en tout cas fait partir tous ces symptômes. Donc la fatigue, elle est toujours présente, mais en tout cas...
Et vous aimez votre travail, Denis ?
Oui, c'est riche, c'est passionnant, mais c'est exténuant, voilà. Donc c'est un peu la contrepartie. Et j'ai la chance d'avoir mon épouse à la maison, qui fait que je peux, en tout cas, plus facilement que certaines personnes, me consacrer pleinement à mon travail.
Mmh. Merci Denis pour ce témoignage, une cure de magnésium, et c'est reparti, Patrick Charin.
Oui, je crois qu'on a touché effectivement les points importants de la fatigue que ressent cet auditeur, c'est-à-dire globalement une surcharge d'activité et beaucoup de stress, et c'est quand même le fond de la plupart des causes de fatigue chronique quand on ne trouve pas d'étiologie.
Mmh. Philippe Zaviéja, un mot sur le témoignage de Denis?
Moi, j'avais envie de demander à Denis s'il aime toujours autant son, si on l'a toujours au téléphone, toujours autant son boulot qu'au premier jour. Soit la cause est organique, soit elle est liée à l'intérêt ou à l'attrait du travail. Elle demande à être explicitée, à être creusée davantage. Mais là, on aurait besoin d'en parler plus longuement avec Denis.
Il est encore là, Denis. Denis, vous êtes là, hein?
Oui, alors, oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Philippe Zaviéja?
En tout cas, moi, mon ressenti, c'est que j'ai 35 ans, donc j'ai 10 ans d'activité. J'ai une période où j'étais militaire aussi, donc j'étais confronté à d'autres types de fatigue. Et pour moi, la vie professionnelle, c'est de la fatigue qu'il faut surmonter. Donc c'est des étapes qu'on gravit les unes après les autres. Donc ce qui nous paraissait insurmontable quelques années auparavant, eh ben on arrive à un nouveau point. Donc ce qu'il faut savoir, c'est bien connaître ses limites et puis savoir quand on veut s'arrêter ou quand on souhaite s'arrêter. Mmh. Mais cet inconfort, c'est celui aussi qui permet de progresser. Parce que si tout était facile, forcément, ce serait la vie serait différente.
Mais la question de l'effort aussi. Philippe Zaviéja.
Oui, il y a deux choses. Enfin, j'entends deux choses dans ce que nous dit Denis. Il y a la différence entre une fatigue physique, qui paraît assez naturel en vérité. On comprend assez bien qu'on produit un effort physique, il aura sa rançon, qui est la fatigue, qui ne paraît pas plus inquiétante que cela, parce qu'on sait que une mise au repos, voire un sommeil, va l'atténuer ou l'éteindre, et reconstituer son stock d'énergie, j'ai envie de dire. Et puis, la fatigue plus intellectuelle, qui correspond souvent, de plus en plus souvent d'ailleurs, au type de travaux qu'on nous demande d'accomplir dans les sociétés contemporaines, qui est plus inquiétante parce qu'elle est, par définition, plus inquiétante. Elle pose plus de questions aux gens qui l'éprouvent, parce qu'on ne comprend pas très bien d'où vient le souci. Le souci, il peut venir, on le sait, qu'il y a une fatigue psychique liée à la concentration. Enfin, je veux dire que le psychisme, il a aussi son propre métabolisme. J'ai envie de dire que lorsqu'on le met au travail, il se fatigue. Ce travail intellectuel se fait aussi, même si on le néglige, dans un contexte physique, le bruit, la chaleur ou le froid, etc., qui peuvent aussi être des facteurs de fatigue. Et je le répète, c'est ce côté pas forcément cognitif, pas seulement cognitif, mais aussi intellectuel, qui inquiète les gens, parce que on a du mal à raccrocher à une cause physique qui nous rassurerait pourtant cette fatigue-là.
Mmh. Elle est donc sans objet. Elle est très difficile, difficile de lui assigner une origine.
Il n'est pas tangible, il n'est pas palpable, il n'est pas matériel.
Maurice, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Nîmes, nous vous écoutons.
Oui. Simplement une question très courte. Quelle est la différence entre la fatigue et la dépression?
Merci pour cette question courte mais profonde, Patrick Charin.
Oui, dans la dépression, il y a quand même des troubles de l'humeur très importants. La perte de l'envie, la tristesse, des idées noires, qu'on n'observe pas normalement dans une fatigue chronique. Dans une fatigue chronique, il y a vraiment une fatigabilité intellectuelle, des troubles de l'attention, de la concentration. Il n'y a pas de désintérêt, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de troubles de l'humeur. Sachant que les gens qui ont des syndromes de fatigue chronique ou des burn-out peuvent avoir ensuite une dépression secondaire réactionnelle à l'événement responsable de la fatigue chronique ou du burn-out. Mais globalement, ce sont deux entités bien distinctes qu'on sait très bien différencier. Sachant que la dépression peut donner une fatigue, mais que la dépression, il y a des tas d'autres symptômes qui permettent d'en faire le diagnostic.
La fatigue chronique, est-ce que vous pouvez la décrire? Ou burn-out, avez-vous dit?
Voilà, c'est à peu près, les causes sont pas tout à fait les mêmes, mais globalement, les conséquences sont identiques. C'est-à-dire, la fatigue chronique, les gens qui ont une fatigue physique, mais aussi intellectuelle, morale, psychique qui dure pendant plusieurs mois et dont on ne retrouve aucune cause, puisque toute maladie peut donner une fatigue, des causes infectieuses, des cancers, des maladies auto-immunes, des causes médicamenteuses. Et quand on ne retrouve rien, au bout de plusieurs mois avec de nombreux examens complémentaires normaux, un examen clinique normal, on se pose la question du syndrome de fatigue chronique.
Vous voulez dire un mot, Philippe Zaviaja ?
Oui, ce que m'évoque cette question, c'est... Moi, je tiens la fatigue pour un phénomène normal. Alors, c'est vrai qu'on se polarise dessus désormais en considérant qu'il est pathologique, mais non, c'est un phénomène d'abord et avant tout normal, il faut le rappeler. Je le disais tout à l'heure, un effort physique, un effort intellectuel, ça conduit nécessairement et normalement à une fatigue, quelle qu'en soit la forme, qui ne devient problématique ou qui peut poser question que quand le repos n'y pallie plus. Mais c'est la normalité de la fatigue que je voudrais souligner et que contribue un petit peu à masquer un discours trop médical quelque part d'un côté. Et d'un autre côté, cette course à la performance dans laquelle on est engagé dans nos sociétés qui fait que chaque petit accès de fatigue est perçu comme une faiblesse qui va nous empêcher de remplir notre rôle, notre performativité, j'ai envie de dire, de rentrer dans ce cycle-là. Et c'est finalement ce cycle-là qui n'est pas normal vis-à-vis de la nature humaine. C'est que la nature humaine, elle est faite pour de l'activité, du repos, de l'activité, du repos, et pas de l'activité sans jamais s'arrêter. On en meurt de l'activité sans jamais s'arrêter.
Norbert, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Paris.
Oui, de Paris. Alors, pour faire une synthèse par rapport à ce que j'ai entendu, moi, je suis dans un cas, je ne suis pas spécialement... j'ai pas de problème avec mon travail puisque je suis retraité. Je vais bien sur à tout point de vue. Je monte mes 5 étages tous les jours sans problème et même plusieurs fois par jour. Et de temps en temps, il m'arrive, comme aujourd'hui, ces jours-ci, d'avoir une espèce de coup de fatigue générale que j'explique pas, sauf peut-être par les cycles réguliers, soit biorhythme, soit lunaire, soit... Est-ce que vous avez des indications sur ces choses-là, parce que sur le plan physique, je vais bien, sur le plan moral, je fais des choses qui me plaisent, et d'un seul coup, même en dormant correctement longtemps, je dors comme mon chat, c'est-à-dire 2 heures par jour, quoi, en gros. Et même comme ça, je ne me repose pas.
Merci Norbert. Restez en ligne, Patrick Chorin vous répond. Tout va bien hein, de l'extérieur, bah, si ce n'est un bon coup de fatigue
voilà,
de temps en temps.
Un petit coup de fatigue, bon, bah, écoutez.
Rien de grave.
Rien de grave, un petit peu de repos, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est ce qui distingue globalement quand même. La fatigue normale physiologique qui entraîne, qui nécessite le repos pour se régénérer, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'asthénie qui disparaît pas malgré le repos.
Un mot, Philippe Zaviaja. Norbert va très bien, si ce n'est qu'il a un coup de fatigue de temps en temps.
Oui, et il n'est pas dans ma sphère de compétence qui serait le travail. Désolé, Norbert.
Retraité.
Est-ce que ça doit être inquiétant ? Est-ce qu'on sait aussi que effectivement le biorhythme, comme vous disiez tout à l'heure, monsieur, peut impacter notre degré d'énergie ponctuellement ? On vient de changer d'heure, il y a une épidémie de grippe qui traîne, je crois. Bon, on peut.
Oui, le changement d'heure, les saisons. On sait très bien qu'effectivement, la lumière naturelle, le soleil, nous stimule beaucoup plus, effectivement. C'est vrai qu'on est souvent plus fatigué dans les périodes plus obscures.
Elisabeth, bonsoir.
Oui, bonsoir Nicolas, merci de prendre mon appel et merci pour toutes vos émissions très intéressantes.
Merci à vous.
Voilà, alors moi je vous appelle, j'ai 54 ans et je suis plutôt en pleine forme et depuis le printemps dernier j'ai été amenée à consulter pour des problèmes de fatigue intense parce que j'avais l'impression que plus je dormais, plus j'étais fatiguée, je me couchais de plus en plus tôt, je ne pouvais plus lire le soir parce que je m'endormais dès la première ligne et le matin je me réveillais avec l'impression d'avoir dormi profondément. Et quand je me levais, j'étais épuisée au point de physiquement avoir beaucoup de mal à me lever. J'ai donc consulté et j'ai eu une étude de mon sommeil. Une polysomnographie a montré que j'avais des apnées du sommeil assez importantes. Je faisais plus de 3 heures d'apnée par nuit. Et là, j'ai évidemment été très étonnée parce que, pas en surpoids, je ne fume pas, j'ai jamais fumé, j'ai plutôt toujours fait du sport. Et autour de moi, mes amis, mes proches ne comprennent absolument pas et me disent « c'est pas possible, c'est psychologique ». c'est parce que tu es stressé, que tu fais ces apnées, c'est pas normal. Et depuis que je suis appareillée, évidemment, je suis moins fatiguée, mais c'est très difficile. Hein. Je vous avoue que l'appareil, c'est pas facile du tout.
Vous êtes obligé de vous en servir la nuit, hein, c'est bien cela.
Oui, toute la nuit. Et on m'a même dit, bon, je ne fais pas de sieste, mais on m'a même dit que si je devais faire des siestes, il faudrait aussi que je le garde. Mmh. Alors, ma question, en fait, c'était, est-ce qu'on peut faire des apnées du sommeil par le stress, sachant que dans la journée même, je me surprends de temps en temps à couper ma respiration, comme si je voulais arrêter le temps pour avoir le temps de faire tout ce qu'on nous demande. Moi, je travaille en milieu hospitalier, et on nous demande toujours plus, dans le même temps imparti. Et j'ai l'impression, peut-être, que ce problème respiratoire vient du fait que j'arrête le temps pour en faire plus.
Mmh. Merci Elisabeth pour cette question, ce témoignage, Patrick Cherin.
Oui, effectivement, ça fait partie des causes qu'on recherche systématiquement dans des fatigues relativement récentes. Parmi les maladies, on cherche toutes les maladies du sommeil à l'interrogatoire et l'examen. Et puis on fait très souvent des consultations, voire des polysomnographies nocturnes, parce qu'on recherche des apnées du sommeil, des myoclonies nocturnes, des syndromes des jambes sous repos, etc. Des tas de pathologies, des narcolepsies, des tas de pathologies du sommeil qu'on connaissait peu il y a encore 15 ans, 20 ans, qu'on découvre de plus en plus et qui sont très grands pourvoyeurs de fatigue chronique. Mmh. Alors, est-ce que le stress peut favoriser ça? On sait qu'effectivement il y a des terrains prédisposants, des sujets en surcharge pondérale, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Et de temps en temps, d'autres on découvre des apnées du sommeil chez des gens qui ont une morphologie tout à fait normale. Et malheureusement, effectivement, il faut du temps pour que la fatigue disparaisse parce que malheureusement, ça fait des années souvent qu'on dort mal, très mal, et qu'on a une dette de sommeil qui s'accumule au fur et à mesure du temps, des années. Et souvent, effectivement, il faut beaucoup de temps pour que la fatigue disparaisse. Et est-ce que le stress peut favoriser ça? Bon, a priori, non, c'est une maladie à part entière, même si le stress est lui aussi un très grand pourvoyeur de nombreuses pathologies.
Alice, bonsoir. Alice, vous m'entendez?
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Paris, soyez la bienvenue.
Merci. Alors... Oui.
On vous écoute.
Question, en fait. Oui, alors je suis mère de famille, donc j'ai deux enfants, dont une adolescente de 15 ans à la maison. Et donc c'est une période où on a tendance à dire que les jeunes sont très fatigués, les ados dorment beaucoup. Et donc je m'interrogeais sur le fait de savoir s'il fallait plutôt les stimuler pour, je dirais, s'agiter un peu plus, ou au contraire les laisser, je dirais, dans cet état de fatigue et de ne rien faire, de ne pas avoir envie de faire des choses. Voilà.
Merci Alice pour cette question. Il y a un chapitre, alors avant de donner la parole à Patrick Cherin, professeur de médecine interne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, décrivez-nous juste, Philippe Zavieja, peut-être le chapitre adolescence de votre dictionnaire de la famille.
De la fatigue, pardon.
Oh, le lapsus.
C'est compliqué.
Je vais aller consulter après l'émission, moi.
C'est compliqué l'adolescence parce que d'un côté, mais le professeur Cherin nous en dira plus tout à l'heure, on a ces besoins métaboliques de l'enfant qui grandit très vite, là encore, et qui doit s'adapter aussi à sa nouvelle condition d'ado puis de jeune adulte. Donc on a effectivement sans doute un besoin des besoins métaboliques accrus qui peuvent expliquer peut-être une plus grande fatigabilité. Et puis on a tout un habillage psychologique, psychanalytique, l'entrée dans une nouvelle vie, souvent dans une phase un peu réactionnelle vis-à-vis et à la fois de l'enfant qu'on n'est plus et de l'adulte qu'on n'est pas encore, qui peut conduire à des comportements qui ne sont plus métaboliques cette fois, mais qui sont parfois un peu léthargiques en effet.
Patrick Cherin.
Oui, je crois qu'on est typiquement dans ce type de cadre, c'est-à-dire voilà, beaucoup d'activités, peu de repos souvent, peu de sommeil peut-être, c'est un mode de vie un petit peu particulier qui favorise beaucoup, et on en voit beaucoup, des fatigues chroniques chez déjà de l'adolescent, et un rythme de vie un peu plus proche de la norme souvent améliore les choses.
Oui, avec éventuellement une vie sociale ou sociable pas toujours très saine pour les médecins, avec la consommation d'un certain nombre de choses, de l'alcool, une alimentation pas super équilibrée, et aussi une conflictualité psychique propre à l'adolescente qui est très consommatrice d'énergie, qui peut aussi venir alimenter.
La crise d'ado, ça bouffe de l'énergie, pour
énormément,
le dire
énormément.
Trivialement.
Énormément. C'est une des, probablement, des périodes de la vie la plus conflictuelle psychiquement.
La plus stressante.
C'est vrai?
Oui.
Le médecin dit la même chose.
Ah oui, tout à fait. Oui, c'est une période stressante et ça fait partie, voilà, avec les comportements éventuellement abusifs d'alcool, de manque de sommeil, etc., qui participent certainement à un état.
Bonsoir, Georges.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Poitiers.
Je vous appelle de Poitiers et je vous donne aussi mes amitiés de François de Granville. Parce qu'en général, François de Granville, on ne le prend pas, il a des questions toujours réactionnaires, je pense qu'il est un tout petit peu en liste rouge. Néanmoins...
Écoutez, je ne sais pas, Georges, mais nous mènerons l'enquête, je vous le promets.
Moi aussi, j'ai mené mon enquête, vous en faites pas, monsieur Demorand.
Ah, vous avez déjà les conclusions, alors.
Vous faites partie de ces gens qui m'épatent, comme François-Olivier Gisbert ou autre, et j'aimerais bien avoir... Enfin oui, pardonnez-moi.
Non, je vous en prie, allez-y, on est en train de parler de la fatigue, mais...
Bah oui, mais justement...
Vous avez toute liberté. Je vous fatigue peut-être, Georges, c'est ça le problème.
Non, pas du tout. Ce qui est très fatigant pour le commun des mortels comme moi, François de Granville, c'est de voir que certaines personnes, bah vous par exemple, Gisbert ou autre, arrivent probablement à dormir 4 ou 5 heures par nuit.
Oh, détrompez-vous que, multiplié que, par deux
Que le pédzouille moyen et le commun des mortels a besoin de ses 8 à 9 heures. En tout cas, vous peut-être pas, monsieur Demorand, mais enfin, je connais personnellement, et évidemment, leur capacité de travail. On est,
Et de nuisance à vous entendre, Georges. On est décuplé.
Pas du tout.
Bon, alors rassurez-vous, Georges. Rassurez-vous. Ou inquiétez-vous, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour vous informer, non, je dors le maximum possible. 8 heures, c'est le minimum. Philippe Xavier.
Oui, moi, ce que m'évoque la question de monsieur, c'est la grande variabilité du besoin de sommeil que nous avons les uns les autres. La norme, le cas le plus fréquent serait ces fameuses 8 heures de sommeil. Je ne sais pas quel est le seuil, 7 heures, vous dites-vous, le seuil de récupérabilité, mais il existe des individus qu'on appelle les petits dormeurs qui ont besoin de 2, 3, 4 heures de sommeil par nuit et qui, cela leur suffit. Il faut lire un petit bouquin qui s'appelle Les troubles de l'éveil d'Emmanuel Pirac, il y a quelques années, et qui en témoigne très bien.
Il dort peu, qui est avocat.
Exactement. Et qui raconte qu'il a longtemps été insomniaque, ne connaissant pas son statut de petit dormeur, à force d'essayer de dormir ses 7 heures ou ses 8 heures de sommeil. Il a maintenant trouvé comment le faire. Il dort 4 heures et il bosse le reste du temps.
Il a donc beaucoup plus de temps que nous autres, les gros dormeurs. Patrick Cherin.
Oui, c'est de toute façon une des caractéristiques d'une population humaine. Quand on dit que la moyenne, il faut dormir pour ne pas être fatigué. Donc on ne parle pas des insomniaques qui sont fatigués après. En moyenne, à peu près 7 heures, c'est une moyenne pour 95% des individus. Puis il y a 2,5% pour lesquels 3-4 heures leur suffisent amplement et ils ne sont jamais fatigués. Et puis des gros dormeurs, à l'inverse, de l'autre côté de la courbe, ce qu'on appelle une courbe de Gauss, qui définit une population humaine normale et qui sont des énormes dormeurs qui nécessitent 9-10 heures pour pouvoir ne pas être fatigué.
Philippe Zaviéja.
Oui, juste une précision pour rebondir là-dessus. Aussi un facteur qui est très variable d'un individu à l'autre, c'est ce qu'on appelle le chronotype, c'est-à-dire le fait d'être plutôt une personne du matin ou plutôt une personne du soir. Souvent, on se rend compte que les gens sont fatigués parce que les rythmes sociaux, donc ceux qu'on partage tous, contrarient ce chronotype. Des gens qui sont plutôt du soir, donc qui vont être des lève-tards, mais des couche-tards aussi. On va les obliger à se lever tôt pour aller bosser. Et ça, forcément, ça va les fatiguer parce qu'on n'est pas dans leur rythme biologique. Et l'inverse est vrai aussi.
Oui, c'est-à-dire les couche-tôt qui font pas la fête, quoi.
C'est ça.
Et qu'on trouve un peu pénible. Léthargique, neurasthénique, absolument, pour reprendre les termes. C'est ce qui ça peut susciter une intense mélancolie, mais c'est un autre sujet. Bonsoir, Sophie.
Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons, Sophie.
Alors oui, moi j'ai un témoignage, une question qui en découle. J'ai 54 ans, j'ai une activité professionnelle très intense et passionnante.
Vous
et
faites
j'ai
quoi
toujours été en pleine forme.
Vous faites quoi, Sophie, sans indiscrétion?
Je suis DRH pour un groupe hôtelier. Voilà, donc j'ai des longues journées, très pleines de belles choses professionnelles, mais très prenantes. Et puis, pendant les deux dernières années, j'ai été pas mal fatiguée. J'ai mis ça un peu sur le compte de la préménopause, de la ménopause, avec tout le chapelle de symptômes et donc un sommeil qui était perturbé. Et jusqu'au moment où j'ai fait un jeûne, j'ai jeûné pendant 12 jours. C'était même un jeûne thérapeutique parce que c'était encadré médicalement. Et j'ai retrouvé une vitalité que j'avais perdue depuis 2 ans. Je faisais 3 heures de sport pendant le jeûne. Et depuis, j'ai compris que de moins manger, ça rendait de la vitalité. Et ma question, c'est est-ce qu'on ne mange pas trop, très souvent dans certains cas, et on parle aussi de malbouffe. Est-ce qu'on on parle aussi d'une société qui est en surpoids. Et est-ce que de trop manger ne fatigue pas également? En tout cas, je trouve que moi, si je veux être en forme, je maîtrise mon bol alimentaire, je maîtrise ce que je mange et je suis en très grande forme.
Merci Sophie pour cette question, ce témoignage. Patrick Cherin, il y a une corrélation entre la forme et l'alimentation, trop manger, fatigue ou empêche de se reposer?
Je pense qu'il s'est passé chez cette auditrice, c'est qu'effectivement, elle a repris un rythme de vie peut-être à l'occasion de cette remise en cause, je crois, quelque part le jeûne, je reprends du sport, je dors mieux, peut-être je reprends une vie plus saine. C'est probablement ce qui l'a peut-être remis dans les rails. C'est vrai qu'effectivement, on a 10% d'obésité, de surcharge pondérale, rien qu'en France, au minimum. Ça fait partie des éléments qui peuvent donner un mauvais état et entraîner un certain nombre de conséquences sur le plan médical.
Vous voulez dire un mot, Philippe Xavier-Jean ?
Oui, en deux volets. Effectivement, on peut envisager l'idée que manger serait une activité consommatrice d'énergie. Et c'est vrai, la digestion est une activité physiologiquement consommatrice d'énergie, d'où le petit coup de barre postprandial qui appelle à la sieste. Et puis, d'un autre côté, il y a tout cet outillage symbolique autour de l'alimentation et de nos modes de vie, mais qui doit être étudié au cas par cas. Et peut-être que le jeûne, là aussi, que vous décrivez, madame, revêt une importance symbolique qui a été, dans votre cas, grandement salvatrice.
Françoise de Nice nous dit que l'énergie, c'est le cru. Quand on mange du cru, ça donne de l'énergie. C'est un régime, ça, je crois. Hein.
Oui, c'est un régime qui est à la mode depuis quelque temps.
Poisson manger, cru, légumes crus, etc.
Manger rouge, manger cru, manger comme les hommes préhistoriques. Voilà, c'est un phénomène de mode, je crois, qui passera comme tant d'autres.
Alors, une question d'une maman inquiète pour son fils qui se couche à 7h du matin et se réveille à 18h. Je ne sais pas quoi faire. Il vit donc avec 12 heures de décalage horaire. Patrick Cherin, comment on re-règle un fils de 21 ans qui se couche à 7h et se lave à 18h?
C'est difficile de rééduquer Tanguy, donc je crois que c'est un petit peu compliqué. Mais effectivement, on revient sur le problème de l'adolescent de tout à l'heure, où effectivement, malheureusement, on va vers les gros problèmes.
Et du chronotype peut-être aussi. Ce jeune homme est un homme... un vespéral, un couche-tard, mais qui se laisse emporter par les activités que les couche-tards connaissent bien et qui finissent par les empêcher de dormir. Parce que comme ils sont au top en fin de journée, voire au milieu de la nuit, ils engagent des activités, par exemple.
Ils le font de plus en plus tard.
C'est ça.
Et c'est d'autant plus délétère parce qu'on sait que c'est dormir la nuit qui est important, puisque l'obscurité favorise la sécrétion d'hormones pendant le sommeil, parce qu'il y a l'obscurité, etc. etc.
Parole à Thierry de Lyon, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Je suis assez fatigué d'entendre les hommes politiques de droite comme de gauche et d'entendre les Français se plaindre, comme une auditrice récente sur votre antenne, la DRH ménopausée. Quelle est votre opinion, docteur Demorand, ainsi que l'opinion de vos invités?
Alors moi, je n'en ai pas, mon cher Thierry, mais sur la fatigue démocratique, qui est une expression qu'on entend parfois, Philippe Xavier-Jean, qu'est-ce que vous avez à dire?
Que la fatigue démocratique ou pas, que le mot fatigue ou que les mots qui désignent la fatigue servent aussi à désigner un ras-le-bol, un état de trop plein, c'est-à-dire de dépassement des limites. Alors là, on n'est plus du tout dans la physiologie ou dans la médecine. On est
mais
dans,
il est fatigué d'entendre les hommes politiques de gauche et de droite.
Il n'en peut plus. Oui, je comprends.
Et il n'en peut plus d'entendre les Français se plaindre.
Il y a un traitement relativement simple. Hein. Il ne regarde plus la télé, il coupe la radio.
Bah écoutez, merci.
Je suis désolé.
C'est un peu brutal comme traitement. Il faut faire attention aux effets de sevrage. Mais donc la fatigue démocratique, c'est, comment dire, c'est un usage métaphorique du terme ? Philippe Zaviaja ?
Oui, ou c'est un autre usage que ce discours, que cet usage plus médical ou physiologique, qui vient le recouper d'ailleurs quand on parle de fatigue au travail. On a souvent un fond de ras-le-bol, de démotivation, de perte d'adhésion aux croyances collectives. Et peut-être que notre auditeur fatigué des hommes politiques, se fatigué de la démocratie, soit n'adhère plus aux valeurs qui sont promues, ou y adhère moins, ou accuse les hommes politiques de moins y adhérer.
Une question de Daniel pour vous, Patrick Cherin. Ce sera la dernière de ce téléphone sonne. La fatigue peut-elle être révélatrice d'une maladie cachée? Alors ça, c'est les amis de la... comment on appelle ça encore?
L'hypocondrie.
Voilà, merci. Je suis fatigué à cette heure-là. De l'hypocondrie. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Daniel?
Oui, par définition, l'asthénie, la fatigue, c'est qu'un symptôme qui regroupe des tas de maladies. Et donc, par définition, on recherche systématiquement et plusieurs fois une cause à cette fatigue chronique. Et il est très très rare qu'on passe à côté après un bilan bien effectué.
Rassurez-vous donc, Daniel. Merci Patrick Cherin, professeur de médecine interne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Merci Philippe Zaviaja d'être venu ici à France Inter et d'avoir dirigé cet ouvrage, publié chez De Rose. Dictionnaire de la fatigue, il y en a 15 sortes de fatigue, j'ignorais.
Il y en a bien plus.
Il y en a bien plus, mais de fatigue au sens strict, compassionnel, fatigue des batailles, fatigue, etc. Enfin, fatigue blanche, j'ignorais toutes ces formes de fatigue. C'est tout à fait passionnant comme lecture. Merci à tous les deux et à vous, auditeurs de France Inter.